Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Aujourd'hui, c'est le procès d'Adolf Eichmann qui est au sommaire, et plus particulièrement le colloque international qui va être consacré à cet événement et à sa postérité, les 7, 8 et 9 juin à l'INHA. Ce colloque, comme la rencontre avec Haïm Gouri et Michael Goldman-Galid, l'un écrivain qui a écrit sur cet événement et l'autre enquêteur lors du procès et rescapé d'Auschwitz, doivent expliquer l'impact de ce procès qui a fait entrer la Shoah dans les consciences collectives et lui a donné sa spécificité dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce procès a surtout remis au centre les témoins, leur permettant de raconter au monde entier et d'être entendus. Les procès qui ont suivi restent des échos de ce procès des origines, le premier procès qui a été retransmis mondialement. Mais le procès à Eichmann est aussi un événement politique voulu par Ben Gourion pour unir le peuple d'Israël sur la terre du judaïsme. Avec nous pour en parler aujourd'hui, l'historienne Annette Viviorka, qui organise ce colloque avec d'autres, et vient de ressortir une version augmentée d'un travail consacré au procès à Eichmann. Bonjour.
Bonjour.
Alors votre livre, Annette Viviorka, a été publié une première fois en 1989. Et alors si aujourd'hui on comprend bien la sortie de colloques, de livres à l'occasion des 50 ans de ce procès, pourquoi à l'époque avez-vous voulu écrire ce livre ?
J'ai écrit ce livre à l'époque, donc à la fin des années 80, toute cette période où je m'intéressais à la construction de la mémoire de la Shoah. Et j'ai rencontré deux procès qui m'ont semblé importants. Le procès de Nuremberg, auquel j'ai aussi consacré un ouvrage quelques années plus tard, et le procès d'Adolf Eichmann. Et je me souviens très bien que, à l'origine de ce procès, il y avait un article écrit dans la revue L'Histoire qui s'appelait « Les vagues du procès à Eichmann », donc qui était déjà centré autour de toutes les polémiques et tout l'impact qui avait été celui de ce procès.
Alors, en tant qu'historienne, vous faites émerger dans ce livre le fait que ce procès est un jalon dans la place particulière accordée à la Shoah dans l'opinion. Alors, on peut citer d'autres marqueurs qui viennent à l'esprit. On pourrait penser au feuilleton Holocauste à l'époque, au film Shoah de Lanzmann. Vous pensez effectivement que ce procès a été un jalon important dans la place de la Shoah dans l'historiographie ?
Incontestablement. Il a été d'abord un événement d'une importance extrême en Israël. Et il a été un événement très important aux États-Unis. Et notamment grâce à la télévision, qui a joué un rôle considérable. Et cette télévision a été rendue possible parce que le procès a été filmé dans sa totalité. Et c'était la première fois qu'un procès a été filmé dans sa totalité.
Filmé dans sa totalité, puis filmé par des gens qui s'intéressaient beaucoup à ces questions. Je pense qu'il faut citer donc effectivement Léo Hurwitz, qui était donc le réalisateur à l'époque, et Milton Frischmann, donc, qui était le producteur de ce grand tournage de procès. Et il faut rappeler aussi que l'idée n'était pas du tout de faire des archives, parce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer ça.
Pas du tout. L'idée était de ne pas faire des archives. Et d'ailleurs, dans le contrat, il était précisé que la société de production de Milton Frischmann devait garder les films pendant 90 jours. Donc, c'est très peu. Et effectivement, c'est ce couple improbable composé de Milton Frischmann et de Léo Hurwitz que nous avons étudié avec ma collègue Sylvie Lindeper, qui est la principale organisatrice de ce colloque. C'est ce couple improbable qui était composé d'un sioniste. Frischmann, qui avait déjà fait un documentaire sur Ben Gourion et qui était intéressé tout à la fois à ce qui se passait en Israël et aux résurgences du néonazisme ou même du nazisme tout court à l'époque en Allemagne, et Léo Hurwitz, qui lui était un communiste, pour qui le nazisme n'était que le fascisme, une des variantes du fascisme, et qui, comme communiste, s'était retrouvé sur les listes noires, donc sans travail. Et c'est le génie de Frischmann d'avoir demandé à Léo Hurwitz de filmer le procès. Je devrais ajouter que Léo Hurwitz, qu'on a eu l'occasion de découvrir en France grâce au cinéma du réel, a été un des fondateurs du documentaire américain.
Alors, ce qu'il faut préciser aussi, Anna Viorca, c'est que ce procès donc, a été filmé, a été retransmis à la télévision, alors même qu'en Israël, il n'y avait pas encore de télévision. Donc, c'est dire la conscience qu'avait Ben Gourion, qu'avait le gouvernement israélien, de l'importance de cette retransmission du procès.
Oui, Ben Gourion ne voulait pas de télévision en Israël. Il pensait que ça abêtirait la population. Quand Milton Fortman lui a proposé pour sa boîte de production, avec la charge de distribuer les archives aux télévisions du monde entier, il a considéré que c'était une des modalités de la publicisation de la justice et une des modalités du très grand écho qu'il souhaitait donner à ce procès. Et cet écho, on le voit aussi dans le nombre de places réservées à l'audience pour les journalistes. Joseph Kessel, qui avait couvert les procès Pétain, le procès de Nuremberg, dit qu'il y avait trois fois plus de journalistes au procès Eichmann qu'il n'y en avait à Nuremberg. Et on peut dire que le procès Eichmann a été un grand événement médiatique et un des tout premiers, comme disent les Américains, Global Media Event, événement médiatique mondial.
Et alors il faut dire aussi que effectivement Ben Gourion avait en tête un événement politique aussi à travers ce procès, puisque on savait depuis quand même quelque temps où était Eichmann et qu'à un moment a été prise la décision de l'arrêter, de le ramener en Israël et de mettre en place ce procès qui devait avoir un sens et une portée politique.
Les Israéliens ne se sont jamais intéressés à la traque des anciens nazis. Et il n'y a que deux exemples d'anciens nazis jugés en Israël, Demjanjuk et Eichmann. Et on a un peu forcé la main aux Israéliens pour qu'ils acceptent de prendre Eichmann, enfin d'aller chercher Eichmann, d'aller enlever Eichmann en Argentine et de le juger. Et je pense qu'il y avait au départ, quand Ben Gourion a accepté cette décision, des raisons de politique étrangère, de montrer ce qu'il arrivait à ceux qui attentaient à la vie des Juifs, probablement aussi des raisons de politique intérieure, qui étaient de souder ensemble une population qui, à cette période-là, commençait à devenir hétérogène, puisque ceux qui rejoignaient Israël venaient principalement du bassin méditerranéen, et aussi peut-être cette idée qui n'existait pas dans les premières années de l'État de resserrer les liens entre la diaspora et Israël.
Oui, parce que vous le dites dans votre livre, et c'est toujours surprenant à lire, il y avait aussi l'idée d'unir la population d'Israël parce que les rescapés, parce que ceux qui étaient venus après la guerre, qui avaient pu réchapper au nazisme, étaient mal perçus en Israël.
On entendra à l'hôtel de ville Mickey Goldman. Mickey Goldman raconte l'histoire des 80 coups qu'il a reçu dans le ghetto de Pschechmil, et ses 80 coups auraient dû le tuer. Or, il a survécu à ces 80 coups, et au procès Eichmann, le docteur Bzminski, qui était présent dans le ghetto, témoigne de ce qui est arrivé à Mickey Goldman. Or, quand il est sur le bateau qui le mène en Israël, il raconte cette histoire des 80 coups. Et il entend quelqu'un dire « Le pauvre, il a beaucoup souffert, il raconte n'importe quoi. » Et il dit qu'après, il a cessé de raconter parce qu'il n'était pas cru. Et Antek Zuckerman, autre témoin au procès Eichmann, grande figure de la résistance du ghetto de Varsovie, lui dit « Ça a été le 81e coup. » Et Raïm Gouri, qui sera aussi présent à la soirée organisée par la FMS, a d'ailleurs intitulé sa trilogie documentaire sur la Shoah, qui est une des premières trilogies documentaires, « Le 81e coup », ce coup que les survivants ont reçu aux États-Unis, en France, en Israël, parce qu'ils ont été victimes du mépris. ils s'étaient laissés conduire comme des moutons à l'abattoir. C'est à Bakovner, autre grand résistant du ghetto de Vilno, qui a utilisé le premier cette image, et ils n'avaient pas été entendus. Et dans ce sens, et ce n'était pas prévu par Ben-Gourion, le récit de la Shoah fait par les témoins a suscité une véritable catharsis en Israël et a changé les choses. Rana Yablonka, qui sera présente au colloque, qui est une historienne israélienne, dit « C'est avec le procès Eichmann que le témoignage des survivants est entré dans le code génétique d'Israël. »
Alors si on revient, Agnès Vivorka, au début de ce procès, avant même qu'il ne se tienne, il faut revenir donc sur cette idée que Eichmann effectivement a été enlevé d'Argentine par le Mossad, et puis qu'il est donc ramené en Israël pour être jugé, et qu'à ce moment-là naît une polémique, c'est-à-dire est-ce que la manière dont il a été arrêté entra en tâche cette procédure de jugement, et est-ce qu'il peut être jugé en Israël, puisqu'Israël n'existait pas au moment des faits qui sont reprochés à Adolf Eichmann.
Effectivement, la première polémique, c'est effectivement cet enlèvement. Un État n'a pas le droit d'organiser l'enlèvement de quelqu'un dans un pays étranger avec qui il a de plus des relations diplomatiques. Bon, l'Argentine n'a pas été très pushy dans la polémique. C'est-à-dire qu'après qu'il y ait eu un certain nombre d'excuses, de négations, on a su les détails de l'enlèvement bien plus tard. Les choses se sont très vite arrangées avec l'Argentine, qui ne tenait pas non plus à ce qu'on mette trop son nez dans l'histoire du refuge qu'elle a été pour les anciens nazis après la guerre. La seconde polémique, elle ressemble beaucoup à celle qui a eu lieu lors du procès de Nuremberg. Qui doit juger ce genre de criminel ? Or, l'Allemagne ne voulait pas d'Eichmann. L'Allemagne ne souhaitait pas juger Eichmann. Son avocat, l'avocat d'Eichmann, Maître Servatius, a demandé à l'Allemagne de demander son extradition. L'Allemagne n'a pas souhaité. Il aurait été peut-être préférable qu'Eichmann fût jugé par une cour internationale, mais en 1961, il n'y a pas de cour internationale. Et finalement, cette polémique aussi s'est très vite résorbée. Et il n'a pas semblé illégitime, y compris à Hannah Arendt, fort critique à l'égard du procès, que ce soit Israël qui juge Eichmann.
Et c'était justement quelque chose qui était important pour Ben-Gourion, pour l'État d'Israël, que ce jugement ait lieu en Israël, puisqu'à ce moment-là, Ben-Gourion affirme avoir arrêté l'architecte de la solution finale. C'est donc un procès politique que l'État veut mettre en place pour légitimer Israël, pour faire aussi, pour mettre en scène finalement un État qui juge le cerveau de la Shoah, qui juge ses bourreaux.
Absolument. C'est aussi de mettre en scène l'idée que, grâce à Israël, pour la première fois dans l'histoire, les Juifs eux-mêmes peuvent juger ceux qui s'en sont pris à eux. C'est l'idée que Israël va rendre cette justice-là pour l'ensemble des Juifs par le monde, et c'est aussi une menace à l'égard, Ben-Gourion le dit textuellement dans l'interview qu'il donne au Monde, c'est une menace envers ceux qui voudraient la destruction de l'État d'Israël. Donc l'enjeu politique est un enjeu considérable.
Alors vous évoquiez tout à l'heure, Annette Vivorka, la question du témoignage, la place qui a été donnée pour la première fois dans un tel procès aux témoins, aux rescapés de la Shoah. C'est quelque chose qui a eu une importance énorme et qui a marqué la population israélienne et les gens dans le monde qui écoutaient les recensions des journalistes.
Absolument. J'ai évoqué pour le procès à Eichmann ce que j'ai appelé l'avènement du témoin. Non pas qu'il n'y ait pas eu de témoignage avant, mais c'est à partir du procès Eichmann que le témoin acquiert une identité sociale de survivant et de témoin et qu'il acquiert la légitimité pour dire l'histoire. Et je pense que si on s'inquiète tellement de la fin des derniers survivants de la Shoah, c'est parce que, à la différence d'autres événements historiques, bon, les historiens ne sont jamais embarrassés pour faire l'histoire, sinon bah, l'histoire serait toujours celle des contemporains. Mais à la différence d'autres événements, on a considéré, après le procès à Eichmann, que le témoin lui-même était le porteur de cette histoire. Donc ça rend inquiet pour l'avenir. Qui va porter cette histoire ?
Et d'ailleurs, il y a cette boucle, vous évoquiez tout à l'heure Mickey Goldman, cette boucle puisqu'il est à la fois enquêteur, à la fois rescapé, à la fois témoin dans le procès. Donc il représente finalement l'hyper-témoin, on pourrait dire.
Ah oui, c'est vraiment l'hyper-témoin. Il ne témoigne pas au procès.
On l'entend,
mais,
en fait.
On le voit surtout. C'est-à-dire que pendant tout le procès, Mickey Goldman est aux côtés du procureur israélien Gideon Hosner. Et on le voit d'ailleurs quand on reconnaît son allure, même s'il a un demi-siècle de plus qu'au moment du procès. Et surtout, il a fait partie de l'unité 06, qui est l'unité de police qui a mené l'instruction, puisque la justice israélienne d'inspiration anglo-saxonne, et aujourd'hui tout le monde a compris ce qu'était une procédure accusatoire, c'est donc une procédure accusatoire, et il fait partie de cette unité qui mène l'accusation. Il est assis, donc il assiste à la totalité du procès, du premier au dernier jour, et il est aussi témoin de la pendaison d'Eichmann, et c'est un de ceux qui est sur la vedette, qui va répandre les cendres d'Eichmann au-delà des eaux territoriales. Donc on peut dire que c'est un témoin de bout en bout. C'est la première fois qu'on l'entendra et qu'on le verra à Paris. Donc j'espère que les gens auront à cœur d'aller l'écouter à l'Hôtel de Ville le 6 juin.
Alors sur la petite plaquette qui présente ce colloque, il y a une photo où on voit des gens rassemblés autour d'un poste de radio. Donc on se pose la question justement de la réception de ce procès à Eichmann. Est-ce qu'on a une manière de savoir quel impact ça a eu, alors en Israël bien sûr, mais ailleurs, comment est-ce que les gens ont reçu et entendu ce procès ?
Alors, il a été entendu en Israël, il a été enregistré intégralement par Kol Israël, par la radio israélienne, et cette photo, c'est une photo qui indique comment les gens ont écouté collectivement ce procès en Israël. Et d'avoir mis cette photo sur la plaquette de notre colloque, c'est pour indiquer que nous intéressons principalement aux réceptions, aux médiations et aux postérités du procès. On sait des petites choses sur la réception du procès aux États-Unis, et notamment sur la façon dont la télévision a procédé. Parce que Jeffrey Chandler, qui sera présent au colloque, a écrit un ouvrage où il aborde ces questions. Nous savons que l'importance de ce deuxième pays où le procès a une importance, mais capitale, c'est l'Allemagne. Or, l'Allemagne, c'est un angle zéro aujourd'hui de la recherche. Et nous avons invité différents chercheurs allemands, justement pour éclairer le pan de cette réception en Allemagne. Et l'un d'entre eux a intitulé sa communication « Eichmann dans le salon, la télévision allemande et le procès Eichmann ». Donc on espère beaucoup de ce colloque. Ce colloque est un vrai colloque scientifique, c'est-à-dire un colloque dont on espère qu'il apportera une connaissance sur des points où aujourd'hui on sait peu ou rien même.
Alors peut-être il faut aussi évoquer à Nevyorka la postérité, les conséquences de ce procès. Vous évoquez dans votre livre la question de la montée du négationnisme qui survient après, et puis la place qui devient ce qu'on a déjà évoqué, celle du témoignage, et qui engendre beaucoup d'enregistrements de témoignages et de constitutions d'archives.
Absolument. Et d'ailleurs, l'homme qui a eu l'initiative de la première grande collecte d'archives vidéo, le professeur Geoffrey Hartmann de l'université Yale, raconte que c'est avec le procès Eichmann qu'il a senti l'importance des témoignages. Et c'est donc la première grande collecte, et ces collectes se sont ensuite multipliées. Je pense qu'il n'y a aucun événement au monde qui ait produit autant de témoignages sur tous les supports possibles que la Shoah.
Alors il faut peut-être évoquer brièvement aussi, et même si c'est difficile, le livre d'Hannah Arendt qui a laissé une place très importante.
C'est même plus qu'une place importante. Si on prend le cas de la France, le procès Eichmann est parvenu en France uniquement par le prisme du livre de Hannah Arendt. Et il n'a suscité, à l'exception de l'ouvrage que vous avez eu la gentillesse de citer, mais il n'a suscité aucun ouvrage de chercheurs français, à l'exception des recueils de documents de Léon Poliakov. Il ne faut jamais oublier Léon Poliakov. Donc, on connaît Eichmann par le prisme d'Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, que nous évoquerons aussi au procès, mais nous n'avons pas voulu lui donner une place centrale. Et c'est un ouvrage qui est hautement controversé. D'abord parce que son statut est un statut un peu mélangé. Ça se revendique de l'histoire, mais c'est très approximatif comme façon d'écrire l'histoire. Et surtout, elle affirme que la catastrophe n'aurait pas été si absolue si les Juifs n'avaient pas coopéré à leur propre mort par le biais des conseils juifs. Or, immédiatement, cette affirmation a suscité une polémique qu'on n'aurait pas le temps de reprendre en détail. Mais disons simplement que quand on fusille par centaines de millions, plus d'un million et demi de Juifs assassinés dans les territoires de l'Union soviétique envahis où il n'y a plus aucune organisation juive depuis des dizaines d'années, on voit qu'on n'avait pas besoin d'organisation juive et que cette affirmation est pour le moins à nuancer très très fortement. Et l'autre problème que pose Hannah Arendt, c'est... elle n'en est pas responsable en entier, mais c'est ce que l'on a fait de son portrait d'Eichmann à travers la banalité du mal qui est devenue un stéréotype, un slogan, un lieu commun, alors que nulle part d'ailleurs dans son ouvrage elle n'explicite ce concept. On a pris un concept pour un concept philosophique, ce qui était un titre génial dont certains disent qu'il lui a été soufflé par son mari Blücher, d'autres par son professeur, ami et correspondant fidèle, Karl Jaspers.
Merci beaucoup, Annette Vivorka. Je rappelle donc que votre livre consacré au procès Eichmann est ressorti, augmenté aux éditions André Versailles, et que vous organisez avec d'autres, donc dont Sylvie Lindbergh, un colloque consacré à la question du procès Eichmann à Paris entre le 7, 8 et 9 juin à l'INHA. Et je rappelle aussi que la Fondation pour la mémoire de la Shoah organise une rencontre avec Raïm Goury et Mickey Goldman le 6 juin. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet: www.radio-rcj.info, le site de la Fondation www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.